Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RCN dans votre émission Raison gardée. Aujourd'hui avec moi au micro, Charles, bonjour, l'ami Charles.
Bonjour.
Et deux Isabelle. Isabelle et Monet. Et Isabelle Marc pour le collectif Histoire et Mémoire dans le respect des droits humains, un collectif qui a été créé à Toul, dans lequel s'inscrit aussi la Fédération Nationale des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Et ce collectif, vous êtes présenté aujourd'hui, vous le connaissez peut-être déjà. Il est lié à une personnalité de la ville de Toul, bien connue des Toulois, mais pas seulement. C'est une personne qui est connue nationalement, qui fait partie de l'histoire récente, et qui est le général Bijard. Alors, laquelle de vous deux nous explique ce qui s'est passé un jour et qui a provoqué la création de la constitution de ce collectif ? Une Isabelle.
Alors, ça s'est pas vraiment passé un jour, parce que ça commence en vrai en 2018, où il y a un premier article qui paraît dans l'Est républicain, annonçant qu'il y a eu un don fait à la ville de Toul, et que le conseil municipal a accepté ce don. Il s'agit d'une statue. Alors, je peux vous parler un petit peu de la statue. C'est une statue en bronze, 2,50 m. Elle représente le général en marche avec son béret de para, qui fait quelque chose qui ressemble un petit peu à un salut militaire. Et il y a eu quand même un vote du conseil municipal qui n'était pas à l'unanimité. Toutefois, l'opposition n'a pas engagé de mobilisation particulière, donc... C'est un petit peu tombé dans l'oubli. Bon, vous savez qu'après, il y a quand même eu le Covid, etc. On a été aussi beaucoup mobilisés dans d'autres collectifs. Il y a eu toute la bataille contre les retraites. Enfin, bon. Et puis, est arrivé un second article où il y avait un autre vote de la part du conseil municipal, où là, il était question, on va dire, de régler un petit peu les détails de la chose. Donc... Le conseil municipal a accepté d'assurer l'entretien de la statue, sa sécurité, et a alloué un endroit dans l'espace public. Et on n'a pas mieux trouvé qu'en face des monuments aux morts.
En particulier, en face du monument à la mémoire des résistants à la barbarie nazie. Ce qu'on trouve quand même relativement choquant vu les pratiques violentes et barbares de cet homme-là. Quoi.
Donc la mairie accepte de donner cet espace, accepte ce don de la statue. Alors qui a commandé cette statue ? Donc on comprend que ce n'est pas la mairie qui l'avait commandée elle-même.
Non, c'est une fondation qui s'appelle la Fondation Bijard et qui est liée à la Fondation de France.
Financé en partie par la Fondation de France.
Oui, oui. D'accord. La première personne qui va réagir en 2023, c'est Monsieur Champouillon, qui lui-même a été combattant.
Appelé.
Il va écrire à plusieurs personnalités. Parce que justement, il est très choqué par le choix de l'emplacement. Dans un premier temps, lui, il appelle à ce que la statue soit placée ailleurs. Et il va également mettre sur les réseaux une pétition. Et c'est comme ça qu'un groupe de Toulois se dit qu'il faut peut-être aller au-delà et demander au conseil municipal de renoncer à ce projet, de mettre la statue dans l'espace public. Et c'est comme ça que le comité va commencer à se constituer avec un engagement précieux de la LDH
et la Ligue des droits de l'homme.
La Ligue des droits de l'homme et
de Lorraine.
Oui, donc un engagement précieux parce que il faut aussi un réseau bien solide de militants pour donner à cette action aussi l'ampleur qu'elle mérite, et à ce collectif l'ampleur qu'il mérite, parce que la figure que cette statue célèbre, c'est une figure qui a effectivement une ampleur nationale. La Fondation Bigeard, je suis allée chercher sur le site de la Fondation de France, elle se présente ainsi, donc créée sous l'égide de la Fondation de France en 2010, en hommage au général Bigeard, décédé un an plus tôt à l'âge de 94 ans. Donc fondée cette fondation par la famille, mais aussi des proches, qui ont, alors il est écrit très clairement, a souhaité faire acte de mémoire et donner un cadre officiel à la perpétuation de son œuvre, l'œuvre du général Bigeard. Et il est écrit, donc elle perpétue son œuvre et sa mémoire, et elle vise particulièrement à promouvoir auprès de la jeunesse le courage et la patrie dans l'esprit qui animait le général Bigeard. Alors, l'esprit qui animait le général Bigeard, on aura l'occasion d'en parler. À ce stade, le collectif réunit des individus, nombreux, de tous les d'ailleurs, des associations départementales et nationales, des organisations politiques aussi,
syndicales.
Donc il y a vraiment un mouvement très important là contre cette action qu'on pourrait juger symbolique, mais c'est un symbole effectivement qu'il faut interroger de façon urgente là, parce que sinon la statue pourrait être rapidement installée. Cette statue, est-ce qu'on peut dire un mot? Donc on a dit qu'elle représente le général Bigeard en paras, avec ses médailles militaires, son béret, son uniforme, dans une posture très dynamique. Et c'est aussi une statue qui a été faite par un sculpteur
Boris Lejeune. Boris Lejeune, donc il est né en 1947, c'est un franco-russe. Alors il avait déjà fabriqué une statue, une sculpture de Jeanne d'Arc. Et on lui connaît des accointances avec une revue catholique, on pourrait dire intégriste, qui s'appelle Catholica. Il participe également à des émissions sur Radio Courtoisie et il a eu un portrait dans un média zémourien ou zémouriste, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle L'Incorrect. Donc on voit quand même qu'il a une couleur qui va bien avec le patriotisme.
Oui, parce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Radio Courtoisie que si sur RCN on se parle avec Courtoisie, ça n'a rien à voir du tout. Radio Courtoisie est une radio bien connue des milieux de l'extrême droite. Et les invités y sont sélectionnés, bien sûr, en fonction de leurs opinions. Ce n'est pas une radio qui pratique le pluralisme des idées. Donc, on a donc une fondation, bon, créée par la famille du général, avec ses amis, d'accord, qui veut faire une statue, d'accord, c'est pas une statue de Bigeard en civil, ce n'est pas le député, ce n'est pas, voilà, c'est vraiment le militaire. Et une ville qui accepte, alors de mémoire, au dernier vote concernant l'attribution d'un emplacement pour la statue, il y a eu quelques oppositions, très très peu, je crois qu'il y a eu 3 votes contre, et beaucoup d'abstentions, et donc une toute petite majorité pour le don de cet espace. Alors essayons de faire comprendre à ceux qui se sont abstenus qu'il faut revoir un peu cette position. Est-ce qu'on peut rappeler, peut-être, qui a été le général Bigeard?
Alors, le général Bigeard a participé à la guerre de 39-45, qu'il a terminé dans la résistance, donc il est honoré de ce point de vue-là. Par la suite, il a également participé à la guerre d'Indochine, et on le nomme souvent le héros de Dien Bien Phu, parce qu'il a... Il y a fait montre d'un grand courage. Bon, rappelons quand même que la guerre d'Indochine, comme la guerre d'Algérie, étaient deux guerres d'indépendance. Et la France était du côté des colons, donc c'est pas anodin. Et donc ensuite, il a participé avec un grade à la guerre d'Algérie. Et il a contribué à une période de la guerre d'Algérie qu'on appelle souvent la bataille d'Alger. Donc la bataille d'Alger a eu lieu à un moment où une grande grève générale se préparait en Algérie contre le colonialisme, contre l'OAS et la politique française, et pour revendiquer une indépendance de l'Algérie. Et donc on a mis en place, le gouvernement français a mis en place une politique et des manières de pratiquer de l'armée qu'on a appelées des méthodes de pacification, qui en fait étaient des méthodes enseignées déjà depuis la guerre d'Indochine, de guerre contre-insurrectionnelle. Donc voilà, Bijar, avec ses paras, a participé à ces exactions à Alger, c'est-à-dire des arrestations, des perquisitions dans des familles, des pressions, y compris sur les femmes et les enfants. Voilà. Donc, et ensuite, après les arrestations, les gens étaient conduits dans des centres entre guillemets d'interrogatoire, où on sait maintenant, parce que ça a été documenté par de nombreux historiens plus jeunes et plus modernes, mais ça a été dénoncé aussi dès cette époque-là, hein, dès 54, je crois, de mémoire, non, 57 de mémoire. Et dans ces centres d'interrogatoire, on pratiquait la torture. Des personnes ont témoigné avoir reconnu Bijar, comme d'autres. Alors, Bijar, il a une particularité par rapport à ces pratiques-là, c'est que, d'une part, il a été formateur à un centre de formation militaire à Skira, qui s'appelait aussi Philippeville, et il a contribué à la rédaction d'un manuel de guerre contre-insurrectionnelle, c'est-à-dire qui inclut et qui légitime des pratiques violentes de torture pour obtenir des renseignements de combattants pour leur indépendance. Bon, nous, on le repose comme ça. Et d'autre part, il a aussi une particularité, c'est-à-dire que d'autres personnalités militaires, y compris de haut gradé, c'est-à-dire par exemple le général Massu, Ossarès, à peu près dans les années 2000, au moment où on a beaucoup reparlé de la guerre d'Algérie et revu la mémoire qu'on en avait par des historiens et des historiennes engagées. Par exemple, ces deux personnes-là ont nommé Bijar et eux ont reconnu avoir pratiqué la torture, ce qui n'est pas le cas de Bijar. Il s'en est toujours exonéré, il ne l'a jamais reconnu. On sait aussi que, pour certains arguments qui disent « Ah mais oui, dans les guerres, il y a toujours des sales périodes et des actes difficiles », on sait aussi que, par exemple, le général de la Bollardière a dénoncé tout de suite ces pratiques-là et s'en est a pris du recul et qu'il a été condamné pour ça. Voilà. Donc, Bijar, il a quand même pas eu un rôle très propre, contrairement à ce que sa légende touloise et dans certains milieux veut nous faire croire depuis très longtemps. C'est en partie pour ça qu'on veut la dénoncer, et c'est pour ça aussi que des historiens vont venir animer cette conférence et nous soutiennent dans cette action-là. Des historiens d'ailleurs qui réclament que la torture soit reconnue par l'État français comme une pratique systémique dans laquelle l'État français a des responsabilités.
On peut peut-être rappeler, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, que le collectif s'appelle Histoire et mémoire dans le respect des droits humains. C'est-à-dire qu'il s'agit de regarder notre histoire en face, en employant les mots justes. Tu disais à l'instant qu'on parlait de la pacification, d'un retour à l'ordre au moment de la bataille d'Alger. Donc c'est sur l'année, presque toute l'année 1957, donc de janvier à octobre. Et ensuite, dans l'enseignement scolaire, on nous parlait des événements d'Algérie sans mettre encore le mot de guerre. Ensuite, on a parlé des guerres de colonisation, décolonisation. Maintenant, on parle de guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut du temps, il faut parfois la disparition des acteurs de ces moments-là pour qu'on réussisse à employer les mots justes et à reconnaître aussi ce qui a été pratiqué avec... parfois plus que l'aval du gouvernement, c'est vraiment une demande du gouvernement. Les généraux, enfin, me semble-t-il, au moment de la bataille d'Alger, ont eu tout pouvoir, hein, vraiment. Donc ils ont fait ce qu'ils ont voulu.
Oui, c'est ça.
Et donc, effectivement, certains l'ont reconnu, d'autres non. C'est le cas du général Bijard. Et le travail des historiens est de documenter et de pouvoir apporter les preuves, en recoupant les témoignages et les documents, de ce que nous pouvons reprocher, regretter. Voilà. Et il faut regarder cette réalité en face.
Il y a un site qui a été créé par Fabrice Risseputi et d'autres. Enfin, il est quand même à l'initiative. Ce site s'appelle 1000autres.org. 1000 comme le nombre et autres, A-U-T-R-E-S, c'est par rapport à Maurice Audin. Et sur ce site, il y a alors une foultitude de témoignages qu'il recueille à propos donc des exactions qui se sont produites au moment de la guerre d'Algérie. Et toujours sur ce même site, vous allez trouver aussi plein de références si vous avez envie d'aller creuser le sujet. Il y a également sur le Club Mediapart 49 billets de blog, dont celui qui s'appelle le blog de l'histoire coloniale et post-coloniale, qui sont animés par des historiens dont Fabrice Risseputi et Alain Ruscio. Ces deux historiens vont venir faire une conférence à Toul le 26 mars. Donc ça se passera...
Salle des adjudications.
À la salle des adjudications.
À 20h.
À 20h, voilà.
Isabelle,
je voudrais préciser sur le site 1000 autres. Il a été créé ce site pour que les personnes qui ont perdu des proches pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que pendant la guerre d'Algérie, il y a énormément de gens qui ont disparu après... justement les arrestations et les tortures, parce que on les a tués quand ils étaient dans des états absolument épouvantables après avoir souffert de la torture. On les a fait disparaître plutôt que de les rendre à leur famille. Et de nombreuses familles n'ont pas trace de leur devenir, ne peuvent pas quelque part faire leur deuil. Donc le site 1000 autres, il a été créé dans ce but-là. Et les historiens ont aidé à retrouver, par un travail sur les archives, certains de ces disparus, à au moins savoir quel était leur destin. On peut dire à ce sujet-là que une des pratiques par lesquelles Bijard est connu, moi j'en ai parlé avec un ami algérien assez âgé, quand on lui dit Bijard, il répond tout de suite, les crevettes Bijard.
Alors, qu'appelle-t-on les crevettes Bijard ?
Alors, les crevettes Bijard, c'est une pratique absolument abjecte et honteuse par laquelle on faisait justement disparaître les personnes qui étaient, entre guillemets, trop abîmées par la torture. Donc, on leur scellait les pieds dans un bloc de béton et on les balançait à la mer d'un hélicoptère pour qu'on ne les retrouve pas. Il faut rappeler aussi que cette pratique, elle a été exportée en Amérique du Sud, en Argentine notamment, où il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont disparu, et au Chili. Mais on connaît par exemple la lutte des mères en Algérie qui recherchaient leurs enfants disparus comme ça. Et puis dans les sites internet intéressants, il y a aussi le site qui s'appelle histoirecoloniale.net, des mêmes historiens.
Oui, donc effectivement, Alain Roussio, R-U-S-C-I-O, qui est un chercheur indépendant qui a beaucoup travaillé sur l'Indochine coloniale, et en particulier la guerre dite française d'Indochine. Il a travaillé aussi plus largement sur l'histoire de la colonisation et des luttes pour l'indépendance du Vietnam à l'Algérie. Et il a participé, par exemple, à un ouvrage comme Ho Chi Minh, écrit et combat, pour le situer. Et puis... Il a aussi écrit... Alors, vas-y Isabelle, tu me disais...
Le Pen a torturé en Algérie.
Voilà.
Séri Sepputi.
Oui, c'est l'autre historien, Fabrice... Fabrice Sepputi, R-I-C-E-P-U-T-I, pour les auditeurs qui voudraient aller chercher, qui lui aussi est un historien spécialiste des questions coloniales et postcoloniales, et qui a écrit effectivement Le Pen et la Torture, Alger 1957, Lutter contre l'oubli, c'est le titre complet, qui est un ouvrage qui date de 2024, donc tout récent. Oui, et il avait aussi écrit, il y a quelques années, Ici on noya les Algériens. Donc voilà, ce sont des historiens dont le travail est d'une qualité reconnue nationalement et qui donc vont venir à Toul, on répète, le 26 mars à 20h, salle des adjudications, pour parler de la guerre d'Algérie, de Bijar et de la torture, pour nourrir cette argumentation contre l'installation de cette statue. Qui viendrait glorifier quelqu'un qui, certes, est de Toul, mais dont l'histoire doit être interrogée et critiquée. On peut aussi préciser peut-être qu'il y a une pétition aussi qui a été lancée en ligne.
Oui.
Il y a même deux supports.
Alors la pétition qui reprend également les références des sites qu'Isabelle a cités, elle est sur change.org et elle s'intitule « Pas de statut de Bijar à Toul ».
Et l'autre support, c'est un Framaforme.
Je crois que le plus simple, c'est d'accéder par change.org.
Oui. Ou par le blog de Mediapart récent, le blog qui s'intitule « Histoire coloniale et postcoloniale ». Voilà, il y a l'article, il y a toutes les références dedans.
On peut peut-être rappeler que la question avait déjà été soulevée au moment où avait été demandé, enfin suggéré, le fait de déposer les cendres du général à l'Hôtel des Invalides en 2010, et que des historiens, déjà là, pour la première fois, s'étaient quand même rassemblés pour interroger ce projet à minima. Et il avait été décidé finalement de placer les cendres du général Bijar, non pas à l'Hôtel des Invalides, à l'issue d'une cérémonie officielle, mais à... vous allez me dire, c'est Fréjus, voilà. Parce qu'à Fréjus...
Il y a un monument, ou en tout cas un mémorial...
À la guerre d'Indochine.
Oui.
Ou les guerres coloniales.
Je crois que c'est les guerres coloniales. Donc ce qu'on peut dire aussi sur cette opposition qui avait eu lieu contre les cendres aux Invalides, c'est qu'à l'époque, il y avait encore de grandes personnalités qui s'étaient battues... pour soutenir la lutte d'indépendance des Algériens, qui s'étaient battus pour dénoncer la torture, qui avaient, pour certains, été condamnés, dont de nombreux articles dans la presse avaient été censurés à l'époque. Je pense par exemple à Gisèle Halimi, je pense aussi à Germaine Tillon, des personnes qui avaient été aussi résistants pendant la guerre de 39-45. Ces pratiques de torture en Algérie, elles ont eu lieu à peu près 10 ans après que les résistants et les personnes engagées pour les droits de l'homme aient été réprimées de force par les nazis. C'est pas anodin, parce que c'est des pratiques qui sont quand même du même ordre, quoi. Un système de répression pour soumettre un peuple par la violence. Donc, bon, moi, j'ai, comment dire, dans mes raisons de me mobiliser personnelle, et je pense à de nombreux du groupe aussi, il y a aussi le fait que ces pratiques-là et que la colonisation, elle est aussi à la base d'idéologies particulièrement, on peut dire, racistes, et qui divisent notre société, qui la fracture, et dont la, enfin, leur fondation est basée sur ces idéologies-là. Et les bases de leur pensée aussi, c'est-à-dire que quand on tolère la colonisation et qu'on l'honore, on sait qu'on promeut de fait le racisme, les mauvais traitements, on va contre les préconisations internationales sur le respect des droits de l'homme, c'est pas du tout anodin. Et je pense qu'on ne peut pas... faire la publicité de ces idéologies-là, même par quelque chose qui peut permettre, qui peut être symbolique.
On peut rappeler, tu évoquais la dimension internationale que prend justement ce regard que nous portons sur l'histoire, mais en France, il y a bien eu une commission d'historiens français et algériens, une commission qui avait pour but de travailler justement sur l'écriture, non pas d'une mémoire qui a tendance à être écrite par par celui qui tient la plume, hein, qui est peut-être pas forcément le vainqueur, mais qui l'est souvent, mais en tout cas celui qui tient la plume, et vraiment de confronter des façons de dire l'histoire, des façons de l'écrire. Et aujourd'hui, dans le programme des lycées d'ailleurs, hein, on parle bien des mémoires. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être capable de voir à la fois comment, selon le point de vue et selon l'histoire de son pays, on voit les choses, comment on a pu écrire autrefois l'histoire, et puis d'associer tous les savoirs, tous les documents, pour avoir un regard le plus objectif possible, le plus précis si possible. Et évidemment, ça peut être très douloureux pour ceux qui doivent regarder en arrière et admettre ce que sa nation, enfin son État, a pu à un moment donné demander, quoi, et exiger et porter. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui est difficile. Alors, le mot pratique dans ces cas-là qu'on envoie aux gens, c'est de parler de wokisme, de cancel culture, de dire voilà, vous voulez effacer de l'histoire. Il s'agit justement pas du tout d'effacer. Il s'agit de bien regarder les choses et donc de savoir quelles personnalités sont porteuses des valeurs que l'on défend. Et j'ai le souvenir de... Vous avez parlé de ce monsieur Champouillon qui est un ancien... qui a été appelé au moment de la guerre d'Algérie, qui a fait la guerre et qui disait l'autre jour quand on le rencontrait, il n'y a pas de héros de guerre, parce que la guerre c'est vraiment quelque chose de sale,
bien sûr,
quel que soit l'endroit où on se situe. Et voilà, il paraît presque anachronique de vouloir installer cette statue aujourd'hui.
On est bien d'accord que quand il y a une guerre, il y a, pour le dire simplement, des saloperies des deux côtés. Simplement, il faut quand même que la France... et que les pays européens, d'ailleurs, dans leur globalité, en viennent à faire leur mea culpa d'avoir considéré que la race blanche de religion chrétienne était supérieure à toutes les autres. Ils se sont autorisés de ce simple concept le droit de massacrer des peuples, de les coloniser, de les exploiter, d'exploiter les ressources de leur territoire, etc. L'histoire... coloniale de la France, elle remonte à plusieurs siècles en arrière. Et quand le FLN a lutté pour obtenir l'indépendance de l'Algérie, ça faisait un siècle que les colons français étaient installés en Algérie. Donc forcément, la mémoire des colons ne peut pas être la même que celle des colonisés. C'est une évidence.
Je voudrais pour conclure citer une phrase qui est dans le texte fondateur du collectif, dont vous êtes notamment les rédactrices. On ne peut pas promouvoir la mémoire d'un homme historiquement associé à la brûlure et à la violence de la présence coloniale française en Indochine et en Algérie et à la mise en place d'un régime d'apartheid contrôlé par la force et la domination. Voilà, je crois que là c'est une des formules, je vous invite à lire le texte de ce collectif, une des formules clés que l'on y trouve. Je vous remercie. Donc, on rappelle la conférence le 26 mars à 20h à Toul. Merci beaucoup, les Isabelles.
Merci.